La Chartreuse de Parme, livre 2, chapitre 16. « Eh bien, s'écria le général, en apercevant son frère Don César, voilà la duchesse qui va dépenser 100 000 écus pour se moquer de moi et faire sauver le prisonnier. Mais pour le moment, nous sommes obligés de laisser Fabrice dans sa prison, tout au fait de la citadelle de Parme. On le garde bien, et nous l'y retrouverons, peut-être un peu changé. Nous allons nous occuper avant tout de la cour, où des intrigues fort compliquées, et surtout les passions d'une femme malheureuse, vont décider de son sort. En montant les 390 marches de sa prison à la tour Farnèse, sous les yeux du gouverneur, Fabrice, qui avait tant redouté ce moment, trouva qu'il n'avait pas le temps de songer au malheur. En rentrant chez elle, après la soirée du comte Zourle, la duchesse renvoya ses femmes d'un geste. Puis, se laissant tomber tout habillée sur son lit, « Fabrice, s'écria-t-elle à haute voix, est au pouvoir de ses ennemis, et peut-être, à cause de moi, ils lui donneront du poison. » Comment peindre le moment de désespoir qui suivit cet exposé de la situation chez une femme aussi peu raisonnable, aussi esclave de la sensation présente, et, sans se l'avouer, éperdument amoureuse du jeune prisonnier. Ce furent des cris inarticulés, des transports de rage, des mouvements convulsifs, mais pas une larme. Elle renvoyait ses femmes pour les cacher. Elle pensait qu'elle allait éclater en sanglots dès qu'elle se trouverait seule. Mais les larmes, ce premier soulagement des grandes douleurs, lui manquèrent tout à fait. La colère, l'indignation, le sentiment de son infériorité vis-à-vis du prince dominaient trop cette âme altière. « Suis-je assez humiliée ? » s'écriait-elle à chaque instant. « On m'outrage, et bien plus, on expose la vie de Fabrice. Et je ne me vengerai pas ? Halte-là, mon prince, vous me tuez, soit, vous en avez le pouvoir. Mais ensuite, moi, j'aurai votre vie. Hélas, pauvre Fabrice, à quoi cela te servira-t-il ? Quelle différence avec ce jour où je voulus quitter Parme ? Et pourtant, alors, je me croyais malheureuse. Quel aveuglement! J'allais briser toutes les habitudes d'une vie agréable. Hélas, sans le savoir, je touchais à un événement qui allait à jamais décider de mon sort. Si, par ses infâmes habitudes de plate courtisanerie, le comte n'eût supprimé le mot « procédure injuste » de ce fatal billet que m'accordait la vanité du prince, nous étions sauvés. J'avais eu le bonheur, plus que l'adresse, il faut en convenir, de mettre en jeu son amour-propre au sujet de sa chère ville de Parme. Alors je menaçais de partir. Alors j'étais libre. Grand Dieu ! Suis-je assez esclave ? Maintenant me voici clouée dans ce cloaque infâme, et Fabrice enchaîné dans la citadelle, dans cette citadelle qui, pour tant de gens distingués, a été l'antichambre de la mort. Et je ne puis plus tenir ce tigre en respect par la crainte de me voir quitter son repère. Il y a trop d'esprit pour ne pas sentir que je ne m'éloignerai jamais de la tour infâme où mon cœur est enchaîné. Maintenant, la vanité piquée de cet homme peut lui suggérer les idées les plus singulières. Leur cruauté bizarre ne ferait que piquer au jeu son étonnante vanité. S'il revient à ses anciens propos de fade galanterie, s'il me dit « Agréez les hommages de votre esclave, ou Fabrice périt », eh bien, la vieille histoire de Judith. Oui, mais si ce n'est qu'un suicide pour moi, c'est un assassinat pour Fabrice. Le benêt de successeur, notre prince royal, et l'infâme bourreau Rassi font pendre Fabrice comme mon complice. La duchesse jeta des cris. Cette alternative dont elle ne voyait aucun moyen de sortir torturait ce cœur malheureux. Sa tête troublée ne voyait aucune autre probabilité dans l'avenir. Pendant 10 minutes, elle s'agita comme une insensée. Enfin, un sommeil d'accablement remplaça pour quelques instants cet état horrible. la vie était épuisée. Quelques minutes après, elle se réveilla en sursaut et se trouva assise sur son lit. Il lui semblait qu'en sa présence, le prince voulait faire couper la tête de Fabrice. Quels yeux égarés la duchesse ne jeta-t-elle pas autour d'elle ? Quand enfin elle se fut convaincue qu'elle n'avait sous les yeux ni le prince ni Fabrice, elle retomba sur son lit et fut sur le point de s'évanouir. Sa faiblesse physique était telle qu'elle ne se sentait pas la force de changer de position. « Grand Dieu, si je pouvais mourir !» se dit-elle. Mais quelle lâcheté ! Moi, abandonner Fabrice dans le malheur, je m'égare. Voyons, revenons au vrai. Envisageons de sang-froid l'exécrable position où je me suis plongée comme à plaisir. Quelle funeste étourderie ! Venir habiter la cour d'un prince absolu, un tyran qui connaît toutes ses victimes. Chacun de leurs regards lui semble une bravade pour son pouvoir. Hélas, c'est ce que ni le comte ni moi nous ne vîmes lorsque je quittais Milan. Je pensais aux grâces d'une cour aimable, quelque chose d'inférieur, il est vrai, mais quelque chose dans le genre des beaux jours du prince Eugène. De loin, nous ne nous faisons pas d'idée de ce que c'est que l'autorité d'un despote qui connaît de vue tous ses sujets. La forme extérieure du despotisme est la même que celle des autres gouvernements. Il y a des juges, par exemple, mais ce sont des rats, si. Le monstre, il ne trouverait rien d'extraordinaire à faire pendre son père si le prince le lui ordonnait. Il appellerait cela à son devoir. Séduire Rassi. Malheureuse que je suis, je n'en possède aucun moyen. Que puis-je lui offrir ? 100 000 francs peut-être. Et l'on prétend que lors du dernier coup de poignard auquel la colère du ciel envers ce malheureux pays l'a fait échapper, le prince lui a envoyé 10 000 sequins d'or dans une cassette. D'ailleurs, quelle somme d'argent pourrait le séduire ? Cette âme de boue qui n'a jamais vu que du mépris dans les regards des hommes a le plaisir ici d'y voir maintenant de la crainte et même du respect. Il peut devenir ministre de la police et pourquoi pas ? Alors les 3/4 des habitants du pays seront ses bas courtisans et trembleront devant lui, aussi servilement que lui-même tremble devant le souverain. Puisque je ne peux fuir ce lieu détesté, il faut que j'y sois utile à Fabrice. Vivre seul, solitaire, désespéré, que puis-je alors pour Fabrice ? Allons, marche, malheureuse femme, fais ton devoir, va dans le monde, feins de ne plus penser à Fabrice. Feindre de t'oublier, cher ange. À ce mot, la duchesse fondit en larmes. Enfin, elle pouvait pleurer. Après une heure accordée à la faiblesse humaine, elle vit avec un peu de consolation que ses idées commençaient à s'éclaircir. À voir le tapis magique, se dit-elle, enlever Fabrice de la citadelle et me réfugier avec lui dans quelque pays heureux où nous ne puissions être poursuivis. Paris, par exemple. Nous y vivrions d'abord avec les 1 200 francs que l'homme d'affaires de son père me fait passer avec une exactitude si plaisante. Je pourrais bien ramasser 100 000 francs des débris de ma fortune. L'imagination de la duchesse passait en revue, avec des moments d'inexprimable délice, tous les détails de la vie qu'elle mènerait à 300 lieues de Parme. Là, se disait-elle, elle pourrait entrer au service sous un nom supposé. Placée dans un régiment de ces braves Français, bientôt le jeune Valserra aurait une réputation. Enfin, il serait heureux. Ces images fortunées rappelèrent une seconde fois les larmes. Mais celles-ci étaient de douces larmes. Le bonheur existait donc encore quelque part. Cet état dura longtemps. La pauvre femme avait horreur de revenir à la contemplation de l'affreuse réalité. Enfin, comme l'aube du jour commençait à marquer d'une ligne blanche le sommet des arbres de son jardin, elle se fit violence. « Dans quelques heures, se dit-elle, je serai sur le champ de bataille. Il sera question d'agir, et s'il m'arrive quelque chose d'irritant, Si le prince s'avise de m'adresser quelques mots relatifs à Fabrice, je ne suis pas assurée de pouvoir garder tout mon sang-froid. Il faut donc ici et sans délai prendre des résolutions. Si je suis déclarée criminelle d'État, Rassi fait saisir tout ce qui se trouve dans ce palais. Le premier de ce mois, le comte et moi, nous avons brûlé, suivant l'usage, tous les papiers dont la police pourrait abuser. Il est le ministre de la police, voilà le plaisant. J'ai 3 diamants de quelque prix. Demain, Fulgence, mon ancien batelier de Grianta, partira pour Genève, où il les mettra en sûreté. Si jamais Fabrice s'échappe, grand Dieu, soyez-moi propice. Et elle fit un signe de croix. L'incommensurable lâcheté du marquis del Dongo trouvera qu'il y a du péché à envoyer du pain à un homme poursuivi par un prince légitime. Alors il trouvera du moins mes diamants. Il aura du pain. Renvoyer le comte. Me trouver seul avec lui après ce qui vient d'arriver, c'est ce qui m'est impossible. Le pauvre homme. Il n'est point méchant, au contraire, il n'est que faible. Cette âme vulgaire n'est point à la hauteur des nôtres. Pauvre Fabrice, que ne peux-tu être ici un instant avec moi pour tenir conseil sur nos périls? La prudence méticuleuse du comte gênerait tous mes projets. Et d'ailleurs, il ne faut point l'entraîner dans ma perte. Car pourquoi la vanité de ce tyran ne me jetterait-elle pas en prison? J'aurais conspiré, quoi de plus facile à prouver? Si c'était à sa citadelle qu'il m'envoya, et que je pusse à force d'or parler à Fabrice, ne fût-ce qu'un instant, avec quel courage nous marcherions ensemble à la mort. Mais laissons ses folies. Son Rassi lui conseillerait de finir avec moi par le poison. Ma présence dans les rues, placée sur une charrette, pourrait émouvoir la sensibilité de ces chers parmesans. Mais quoi, toujours le roman. Hélas, l'on doit pardonner ses folies à une pauvre femme dont le sort réel est si triste. Le vrai de tout ceci, c'est que le prince ne m'enverra point à la mort. Mais rien de plus facile que de me jeter en prison et de m'y retenir. Il fera cacher dans un coin de mon palais toutes sortes de papiers suspects, comme on a fait pour ce pauvre L. Alors, 3 juges pas trop coquins, car il y aura ce qu'ils appellent des pièces probantes, et 12 de faux témoins suffisent. Je puis donc être condamné à mort comme ayant conspiré. Et le prince, dans sa clémence infinie, considérant qu'autrefois j'ai eu l'honneur d'être admise à sa cour, commuera ma peine en 10 de forteresse. Mais moi, pour ne point déchoir de ce caractère violent qui a fait dire tant de sottises à la marquise Raversi et à mes autres ennemis, je m'empoisonnerai bravement. Du moins, le public aura la bonté de le croire. Mais je gage que le Rassi paraîtra dans mon cachot pour m'apporter galamment, de la part du prince, un petit flacon de strychnine ou de l'opium du Pérouse. Oui, il faut me brouiller très ostensiblement avec le comte, car je ne veux pas l'entraîner dans ma perte. Ce serait une infamie. Le pauvre homme m'a aimé avec tant de candeur. Ma sottise a été de croire qu'il restait assez d'âme dans un courtisan véritable pour être capable d'amour. Très probablement, le prince trouvera quel prétexte pour me jeter en prison. Il craindra que je ne pervertisse l'opinion publique relativement à Fabrice. Le comte est plein d'honneur. À l'instant, il fera ce que les cuistres de cette cour, dans leur étonnement profond, appelleront une folie. Il quittera la cour. J'ai bravé l'autorité du prince le soir du billet. Je puis m'attendre à tout de la part de sa vanité blessée. Un homme né prince oublie-t-il jamais la sensation que je lui ai donnée ce soir-là? D'ailleurs, le comte brouillé avec moi est en meilleure position pour être utile à Fabrice. Mais si le comte, que ma résolution va mettre au désespoir, se vengeait, voilà par exemple une idée qui ne lui viendra jamais. Il n'a point l'âme foncièrement basse du prince. le comte peut, en gémissant, contresigner un décret infâme, mais il a de l'honneur. Et puis, de quoi se venger? De ce que, après l'avoir aimé 5 ans, sans faire la moindre offense à son amour, je lui dis « Cher comte, j'avais le bonheur de vous aimer. Eh bien, cette flamme s'éteint, je ne vous aime plus. Mais je connais le fond de votre cœur. Je garde pour vous une estime profonde, et vous serez toujours le meilleur de mes amis. » Que peut répondre un galant homme à une déclaration aussi sincère? Je prendrai un nouvel amant, du moins on le croira dans le monde. Je dirai à cet amant, « Au fond, le prince a raison de punir l'étourderie de Fabrice. Mais le jour de sa fête, sans doute notre gracieux souverain lui rendra la liberté. » Ainsi je gagne 6 mois. Le nouvel amant désigné par la prudence serait ce juge vendu, cet infâme bourreau, ce rassis. Il se trouverait anobli, et dans le fait, je lui donnerais l'entrée de la bonne compagnie. Pardonne, cher Fabrice, un tel effort est pour moi au-delà du possible. Quoi, ce monstre, encore tout couvert du sang du comte P et de D, il me ferait évanouir d'horreur en s'approchant de moi, ou plutôt je saisirais un couteau et le plongerais dans son infâme cœur. Ne me demande pas des choses impossibles. Oui, surtout, oubliez Fabrice, et pas l'ombre de colère contre le prince. Reprendre ma gaieté ordinaire, qui paraîtra plus aimable à ces âmes fangeuses. Premièrement, parce que j'aurai l'air de me soumettre de bonne grâce à leur souverain. En second lieu, parce que, bien loin de me moquer d'eux, je serai attentive à faire ressortir leurs jolis petits mérites. Par exemple, je ferai compliment au comte Zourla sur la beauté de la plume blanche de son chapeau qu'il vient de faire venir de Lyon par un courrier et qui fait son bonheur. Choisir un amant dans le parti de la Raversie, si le comte s'en va, ce sera le parti ministériel. Là sera le pouvoir. Ce sera un ami de la Raversie qui régnera sur la citadelle, car le Fabio Conti arrivera au ministère. Comment le prince, homme de bonne compagnie, homme d'esprit, accoutumé au travail charmant du comte, pourra-t-il traiter d'affaires avec ce bœuf, avec ce roi des sceaux qui toute sa vie s'est occupé de ce problème capital? Les soldats de son Altesse doivent-ils porter sur leur habit, à la poitrine, 7 boutons ou bien 9? Ce sont ces bêtes brutes fort jalouses de moi, et voilà ce qui fait ton danger, cher Fabrice. Ce sont ces bêtes brutes qui vont décider de mon sort et du tien. Donc, ne pas souffrir que le comte donne sa démission. Qu'il reste, dût-il subir des humiliations? Il s'imagine toujours que donner sa démission est le plus grand sacrifice que puisse faire un premier ministre. Et toutes les fois que son miroir lui dit qu'il vieillit, il m'offre ce sacrifice. Donc, brouillerie complète. Oui, et réconciliation seulement dans le cas où il n'y aurait que ce moyen de l'empêcher de s'en aller. Assurément, je mettrai à son congé toute la bonne amitié possible. Mais après l'omission courtisanesque des mots « procédure injuste » dans le billet du prince, je sens que pour ne pas le haïr, j'ai besoin de passer quelques mois sans le voir. Dans cette soirée décisive, je n'avais pas besoin de son esprit. Il fallait seulement qu'il écrivît sous ma dictée. Il n'avait qu'à écrire ce mot que j'avais obtenu par mon caractère. Ses habitudes de bas courtisan l'ont emporté. Il me disait le lendemain qu'il n'avait pu faire signer une absurdité par son prince, qu'il aurait fallu des lettres de grâce. Et, bon Dieu, avec de tels gens, avec ces monstres de vanité et de rancune qu'on appelle des farnèses, on prend ce qu'on peut. À cette idée, toute la colère de la duchesse se ranima. « Le prince m'a trompée, se disait-elle, et avec quelle lâcheté. Cet homme est sans excuse. » Il a de l'esprit, de la finesse, du raisonnement. Il n'y a de bas en lui que ses passions. 20 fois, le comte et moi, nous l'avons remarqué. Son esprit ne devient vulgaire que lorsqu'il s'imagine qu'on a voulu l'offenser. Eh bien, le crime de Fabrice est étranger à la politique. C'est un petit assassinat comme on en compte 100 par an dans ces heureux états. Et le comte m'a juré qu'il a fait prendre les renseignements les plus exacts, et que Fabrice est innocent. Ce Giletti n'était point sans courage. Se voyant à deux pas de la frontière, il eut tout à coup la tentation de se défaire d'un rival qui plaisait. La duchesse s'arrêta longtemps pour examiner s'il était possible de croire à la culpabilité de Fabrice. Non pas qu'elle trouvât que ce fût un bien gros péché chez un gentilhomme du rang de son neveu de se défaire de l'impertinence d'un histrion. Mais dans son désespoir, elle commençait à sentir vaguement qu'elle allait être obligée de se battre pour prouver cette innocence de Fabrice. « Non, se dit-elle enfin, voici une preuve décisive. Il est comme le pauvre Pietranera. Il a toujours des armes dans toutes ses poches, et ce jour-là, il ne portait qu'un mauvais fusil à un coup, et encore, emprunté à l'un des ouvriers. Je hais le prince parce qu'il m'a trompée, et trompée de la façon la plus lâche. Après son billet de pardon, il a fait enlever le pauvre garçon à Bologne, etc. Mais ce compte se réglera. » Vers les 5 heures du matin, la duchesse, anéantie par ce long accès de désespoir, sonna ses femmes. Celles-ci jetèrent un cri, en l'apercevant sur son lit, tout habillé, avec ses diamants, pâle comme ses draps et les yeux fermés. Il leur sembla la voir exposée sur un lit de parade après sa mort. Elles l'eussent cru tout à fait évanouie si elles ne se fussent rappelées qu'elles venaient de les sonner. Quelques larmes fort rares coulaient de temps à autre sur ses joues insensibles. Ces femmes comprirent par un signe qu'elles voulaient être mises au lit. 2 fois après la soirée du ministre Zourla, le comte s'était présenté chez la duchesse. Toujours refusé, il lui écrivit qu'il avait un conseil à lui demander pour lui-même. Devait-il garder sa position après l'affront qu'on osait lui faire? Le comte ajoutait « Le jeune homme est innocent, mais fut-il coupable? Devait-on l'arrêter sans m'en prévenir, moi, son protecteur déclaré ?» La duchesse ne vit cette lettre que le lendemain. Le comte n'avait pas de vertu. L'on peut même ajouter que ce que les libéraux entendent par « vertu », chercher le bonheur du plus grand nombre, lui semblait une duperie. Il se croyait obligé à chercher avant tout le bonheur du comte Mosca della Rovere. Mais il était plein d'honneur et parfaitement sincère lorsqu'il parlait de sa démission. De la vie, il n'avait dit un mensonge à la duchesse. Celle-ci, du reste, ne fit pas la moindre attention à cette lettre. Son parti, et un parti bien pénible, était pris. Feindre d'oublier Fabrice. Après cet effort, tout lui était indifférent. Le lendemain, sur le midi, le comte, qui avait passé 10 fois au palais San Severina, enfin fut admis. Il fut atterré à la vue de la duchesse. « Elle a 40 ans, se dit-il, et hier si brillante, si jeune. Tout le monde me dit que durant sa longue conversation avec la Clelia Conti, elle avait l'air aussi jeune et bien autrement séduisante. » La voix, le ton de la duchesse, était aussi étrange que l'aspect de sa personne. Ce ton dépouillé de toute passion, de tout intérêt humain, de toute colère, fit pâlir le comte. Il lui rappela la façon d'être d'un de ses amis, qui, peu de mois auparavant, sur le point de mourir, et ayant déjà reçu les sacrements, avait voulu l'entretenir. Après quelques minutes, la duchesse put lui parler. Elle le regarda, et ses yeux restèrent éteints. « Séparons-nous, mon cher comte, lui dit-elle d'une voix faible, mais bien articulée, et qu'elle s'efforçait de rendre aimable. « Séparons-nous, il le faut. Le ciel m'est témoin que depuis 5 ans, ma conduite envers vous a été irréprochable. Vous m'avez donné une existence brillante, au lieu de l'ennui qui aurait été mon triste partage au château de Grianta. Sans vous, j'aurais rencontré la vieillesse quelques années plus tôt. De mon côté, ma seule occupation a été de chercher à vous faire trouver le bonheur. C'est parce que je vous aime que je vous propose cette séparation à l'amiable, comme on dirait en France. » Le comte ne comprenait pas. Elle fut obligée de répéter plusieurs fois. Il devint d'une pâleur mortelle et, se jetant à genoux auprès de son lit, il dit tout ce que l'étonnement profond et ensuite le désespoir le plus vif peuvent inspirer à un homme d'esprit passionnément amoureux. À chaque moment, il offrait de donner sa démission et de suivre son ami dans quelque retraite à 1000 lieues de Parme. « Vous osez me parler de départ ? Et Fabrice est ici ! » s'écria-t-elle en se soulevant à demi. Mais comme elle aperçut que ce nom de Fabrice faisait une impression pénible, elle ajouta après un moment de repos et en serrant légèrement la main du comte. « Non, cher ami, je ne vous dirai pas que je vous ai aimé avec cette passion et ces transports que l'on n'éprouve plus, ce me semble, après 30 ans. Et je suis déjà bien loin de cet âge. » On vous aura dit que j'aimais Fabrice, car je sais que le bruit en a couru dans cette cour méchante. » Ses yeux brillèrent pour la première fois dans cette conversation en prononçant ce mot méchante. « Je vous jure devant Dieu et sur la vie de Fabrice que jamais il ne s'est passé entre lui et moi la plus petite chose que n'eût pas pu souffrir l'œil d'une tierce personne. Je ne vous dirai pas non plus que je l'aime exactement comme ferait une sœur. Je l'aime d'instinct, pour parler ainsi. J'aime en lui son courage si simple et si parfait, que l'on peut dire qu'il ne s'en aperçoit pas lui-même. Je me souviens que ce genre d'admiration commença à son retour de Waterloo. Il était encore enfant, malgré ses 17 ans. Sa grande inquiétude était de savoir si réellement il avait assisté à la bataille, et dans le cas du oui, s'il pouvait dire s'être battu, lui qui n'avait marché à l'attaque d'aucune batterie ni d'aucune colonne ennemie. Ce fut pendant les graves discussions que nous avions ensemble sur ce sujet important que je commençais à voir en lui une grâce parfaite. Sa grande âme se révélait à moi. Que de savants mensonges eût étalé à sa place un jeune homme bien élevé. Enfin, s'il n'est heureux, je ne puis être heureuse. Tenez, voilà un mot qui peint bien l'état de mon cœur. Si ce n'est la vérité, c'est au moins tout ce que j'en vois. » Le comte, encouragé par ce ton de franchise et d'intimité, voulut lui baiser la main. Elle la retira avec une sorte d'horreur. « Les temps sont finis, lui dit-elle. Je suis une femme de 37 ans, je me trouve à la porte de la vieillesse, j'en ressens déjà tous les découragements. Et peut-être même suis-je voisine de la tombe. Ce moment est terrible à ce qu'on dit, et pourtant il me semble que je le désire. J'éprouve le pire symptôme de la vieillesse. Mon cœur est éteint par cet affreux malheur. Je ne puis plus aimer. Je ne vois plus en vous, cher comte, que l'ombre de quelqu'un qui me fut cher. Je dirais plus, c'est la reconnaissance toute seule qui me fait vous tenir ce langage. « Que vais-je devenir ? » lui répétait le comte. « Moi qui sens que je vous suis attaché avec plus de passion que les premiers jours, quand je vous voyais à la Scala. » « Vous avouerai-je une chose, cher ami ? Parler d'amour m'ennuie et me semble indécent. « Allons, » dit-elle en essayant de sourire, mais en vain. « Courage ! Soyez homme d'esprit, homme judicieux, homme à ressources dans les occurrences. » Soyez avec moi ce que vous êtes réellement aux yeux des indifférents. L'homme le plus habile et le plus grand politique que l'Italie ait produit depuis des siècles. » Le comte se leva et se promena en silence pendant quelques instants. « Impossible, cher ami, lui dit-il enfin. Je suis en proie au déchirement de la passion la plus violente et vous me demandez d'interroger ma raison. Il n'y a plus de raison pour moi. » « Ne parlons pas de passion, je vous prie, » dit-elle d'un ton sec. Et ce fut pour la première fois, après 2 heures d'entretien, que sa voix prit une expression quelconque. le comte, au désespoir lui-même, chercha à la consoler. « Il m'a trompée !» s'écriait-elle, sans répondre en aucune façon aux raisons d'espérer que lui exposait le comte. « Il m'a trompée de la façon la plus lâche !» Et sa pâleur mortelle cessa pour un instant. Mais même dans un moment d'excitation violente, le comte remarqua qu'elle n'avait pas la force de soulever les bras. « Grand Dieu, serait-il possible, pensa-t-il, qu'elle ne fût que malade ? En ce cas, pourtant, ce serait le début de quelque maladie fort grave. » Alors, rempli d'inquiétude, il proposa de faire appeler le célèbre Razzori, le premier médecin du pays et de l'Italie. « Vous voulez donc donner à un étranger le plaisir de connaître toute l'étendue de mon désespoir ? Est-ce là le conseil d'un traître ou d'un ami ?» Et elle le regarda avec des yeux étranges. « C'en est fait, se dit-il avec désespoir, elle n'a plus d'amour pour moi. Et bien plus, elle ne me place plus même au rang des hommes d'honneur vulgaire. « Je vous dirai, ajouta le comte en parlant avec empressement, que j'ai voulu avant tout avoir des détails sur l'arrestation qui nous met au désespoir. Et chose étrange, je ne sais encore rien de positif. J'ai fait interroger les gendarmes de la station voisine, ils ont vu arriver le prisonnier par la route de Castelnuovo et ont reçu l'ordre de suivre sa cédiole. J'ai réexpédié aussitôt Bruno, dont vous connaissez le zèle non moins que le dévouement. Il a ordre de remonter de station en station pour savoir où et comment Fabrice a été arrêté. » En entendant prononcer le nom de Fabrice, la duchesse fut saisie d'une légère convulsion. « Pardonnez, mon ami, dit-elle au comte dès qu'elle put parler. Ces détails m'intéressent fort, donnez-les-moi tous. Faites-moi bien comprendre les plus petites circonstances. » Eh bien, madame, reprit le comte en essayant un petit air de légèreté pour tenter de la distraire un peu. J'ai envie d'envoyer un commis de confiance à Bruno et d'ordonner à celui-ci de pousser jusqu'à Bologne. C'est là, peut-être, qu'on aura enlevé notre jeune ami. De quelle date est sa dernière lettre ? De mardi, il y a 5 jours. Avait-elle été ouverte à la poste ? Aucune trace d'ouverture. Il faut vous dire qu'elle était écrite sur du papier horrible. L'adresse est d'une main de femme, et cette adresse porte le nom d'une vieille blanchisseuse, parente de ma femme de chambre. La blanchisseuse croit qu'il s'agit d'une affaire d'amour, et la Tchéquina lui rembourse les ports de lettres sans y rien ajouter. Le comte, qui avait pris tout à fait le ton d'un homme d'affaires, essaya de découvrir, en discutant avec la duchesse, qu'elle pouvait avoir été le jour de l'enlèvement à Bologne. Il s'aperçut alors seulement, lui qui avait ordinairement tant de tact, que c'était là le ton qu'il fallait prendre. Ces détails intéressaient la malheureuse femme et semblaient la distraire un peu. Si le comte n'eût pas été amoureux, il eût eu cette idée si simple dès son entrée dans la chambre. La duchesse le renvoya pour qu'il pût sans délai expédier de nouveaux ordres au fidèle Bruno. Comme on s'occupait en passant de la question de savoir s'il y avait eu sentence avant le moment où le prince avait signé le billet adressé à la duchesse, celle-ci saisit avec une sorte d'empressement l'occasion de dire au comte « Je ne vous reprocherai point d'avoir omis les mots « injuste procédure » dans le billet que vous écrivîtes et qu'il signa. C'était l'instinct de courtisan qui vous prenait à la gorge. Sans vous en douter, vous préfériez l'intérêt de votre maître à celui de votre ami. Vous avez mis vos actions à mes ordres, cher comte, et cela depuis longtemps, mais il n'est pas en votre pouvoir de changer votre nature. Vous avez de grands talents pour être ministre, mais vous avez aussi l'instinct de ce métier. La suppression du mot « injuste » me perd, mais loin de moi de vous la reprocher en aucune façon. Ce fut la faute de l'instinct et non pas celle de la volonté. Rappelez-vous, ajouta-t-elle en changeant de ton et de l'air le plus impérieux, que je ne suis point trop affligée de l'enlèvement de Fabrice, que je n'ai pas eu la moindre velléité de m'éloigner de ce pays-ci, que je suis rempli de respect pour le prince. Voilà ce que vous avez à dire, et voici moi ce que je veux vous dire. Comme je compte seul diriger ma conduite à l'avenir, je veux me séparer de vous à l'amiable, c'est-à-dire en bonne et vieille amie. Comptez que j'ai 60 ans. La jeune femme est morte en moi. Je ne puis plus m'exagérer rien au monde. Je ne puis plus aimer. Mais je serais encore plus malheureuse que je ne le suis s'il m'arrivait de compromettre votre destinée. Il peut entrer dans mes projets de me donner l'apparence d'avoir un jeune amant, et je ne voudrais pas vous voir affligée. Je puis vous jurer sur le bonheur de Fabrice. » Elle s'arrêta une demi-minute après ce mot. « Que jamais je ne vous ai fait une infidélité, et cela en 5 années de temps. « C'est bien long, » dit-elle. Elle essaya de sourire. Ses joues si pâles s'agitèrent, mais ses lèvres ne purent se séparer. « Je vous jure même que jamais je n'en ai eu le projet ni l'envie. « Cela, bien entendu, laissez-moi. » Le comte sortit, au désespoir, du palais San Severina. Il voyait chez la duchesse l'intention bien arrêtée de se séparer de lui. Et jamais il n'avait été aussi éperdument amoureux. C'est là une de ces choses sur lesquelles je suis obligée de revenir souvent, parce qu'elles sont improbables hors de l'Italie. En rentrant chez lui, il expédia jusqu'à 6 personnes différentes sur la route de Castelnuovo et de Bologne, et les chargea de lettres. Mais ce n'est pas tout, se dit le malheureux comte. Le prince peut avoir la fantaisie de faire exécuter ce malheureux enfant. Et cela pour se venger du ton que la duchesse prit avec lui le jour de ce fatal billet. Je sentais que la duchesse passait une limite que l'on ne doit jamais franchir. Et c'est pour raccommoder les choses que j'ai eu la sottise incroyable de supprimer le mot « procédure injuste ». Le seul qu'il y a le souverain. Mais bah, ces gens-là sont-ils liés par quelque chose? C'est là sans doute la plus grande faute de ma vie. J'ai mis au hasard tout ce qui peut en faire le prix pour moi. Il s'agit de réparer cette étourderie à force d'activité et d'adresse. Mais enfin, si je ne puis rien obtenir, même en sacrifiant un peu de ma dignité, je plante là cet homme. Avec ses rêves de haute politique, avec ses idées de se faire roi constitutionnel de la Lombardie, nous verrons comment il me remplacera. Fabio Conti n'est qu'un sot. Le talent de Rassi se réduit à faire pendre légalement un homme qui déplaît au pouvoir. Une fois cette résolution bien arrêtée de renoncer au ministère, si les rigueurs à l'égard de Fabrice dépassaient celles d'une simple détention, le comte se dit: si un caprice de la vanité de cet homme imprudemment bravé me coûte le bonheur, du moins l'honneur me restera. À propos, puisque je me moque de mon portefeuille, je puis me permettre 100 actions qui, ce matin encore, m'eussent semblé hors du possible. Par exemple, je vais tenter tout ce qui est humainement faisable pour faire évader Fabrice. Grand Dieu ! S'écria le comte en s'interrogeant, et ses yeux s'ouvrant à l'excès comme à la vue d'un bonheur imprévu. La duchesse ne m'a pas parlé d'évasion. Aurait-elle manqué de sincérité une fois en sa vie? Et la brouille ne serait-elle que le désir que je trahisse le prince? Ma foi, c'est fait. L'œil du comte avait repris toute sa finesse satirique. Cet aimable fiscal Rassi est payé par le maître pour toutes les sentences qui nous déshonorent en Europe. Mais il n'est pas homme à refuser d'être payé par moi pour trahir les secrets du maître. Cet animal-là a une maîtresse et un confesseur. Mais la maîtresse est d'une trop vile espèce pour que je puisse lui parler. Le lendemain, elle raconterait l'entrevue à toutes les fruitières du voisinage. Le comte, ressuscité par cette lueur d'espoir, était déjà sur le chemin de la cathédrale. Étonné de la légèreté de sa démarche, il sourit malgré son chagrin. Ce que c'est, dit-il, que de n'être plus ministre. Cette cathédrale, comme beaucoup d'églises en Italie, sert de passage d'une rue à l'autre. le comte vit de loin un des grands vicaires de l'archevêque qui traversait la nef. « Puisque je vous rencontre, lui dit-il, vous serez assez bon pour épargner à ma goutte la fatigue mortelle de monter jusque chez monseigneur l'archevêque. Je lui aurai toutes les obligations du monde s'il voulait bien descendre jusqu'à la sacristie. » L'archevêque fut ravi de ce message. Il avait mille choses à dire au ministre au sujet de Fabrice. Mais le ministre devina que ces choses n'étaient que des phrases et ne voulut rien écouter. « Quel homme est-ce que Dugnani, vicaire de Saint-Paul ?»«
Un petit esprit et une grande ambition, répondit l'archevêque. Peu de scrupules et une extrême pauvreté, car nous en avons des vices. »
« Tu Dieu, monseigneur, s'écria le ministre, vous peignez comme Tacite. » Et il prit congé de lui en riant. À peine de retour au ministère, il fit appeler l'abbé Dugnani. « Vous dirigez la conscience de mon excellent ami, le fiscal général Rassi. N'aurait-il rien à me dire ?» Et sans autre parole ou plus de cérémonie, il renvoya le Dugnani.